Une cérémonie de deuil d'Arbaïn a eu lieu en présence du leader de la révolution islamique à Téhéran. Nouvelle agression israélienne en Syrie et un nouveau record d'inflation en Europe. C'étaient les principaux titres de l'actualité, voici le journal. Le leader de la révolution islamique a fait l'éloge des cérémonies dans le cadre des commémorations annuelles d'Arbaïn, y compris la marche annuelle des millions de personnes vers la ville sainte irakienne de Karbala. S'exprimant lors d'une audience commémorative auquel ont assisté des étudiants, l'honorable Ayatollah Khamenei a déclaré que la marche de l'Arbaïn est un événement spectaculaire, un miracle qui signifie la volonté de Dieu Tout-Puissant de maintenir le drapeau de l'islam noble, hissé et flottant. Une telle volonté, a précisé le leader de la révolution islamique, n'est motivée par aucune politique ni mesure d'origine humaine. Au contraire, a-t-il ajouté, c'est la puissance divine qui, à travers cette manifestation à grande échelle, ouvre une route lumineuse devant nous. L'honorable Ayatollah Khamenei a déclaré que les esprits malveillants, en alimentant des récits déformés, mènent des tentatives inlassables visant à lancer des campagnes contre des événements islamiques clés tels que la marche d'Arbaïn, manière de les saper à des fins intéressées. Le leader de la révolution islamique a ensuite exhorté tout le monde à être patient et à rester ferme et déterminé sur le chemin de la justice et à suivre l'exemple de l'imam Hussein, béni soit-il. Israël a effectué de nouvelles frappes aériennes sur la Syrie, ciblant cette fois l'aéroport international et d'autres zones de la capitale Damas. Le ministère syrien de la Défense, réagissant dans un communiqué, a déclaré que les raids israéliens avaient fait 5 morts parmi les soldats et causé des dégâts matériels. La déclaration n'a pas précisé si les frappes ont affecté les opérations aéroportuaires. Elle a cependant indiqué que les défenses aériennes avaient intercepté et abattu un certain nombre de missiles au-dessus de la ville. Israël a intensifié ses frappes contre les aéroports et les infrastructures civiles dans tout le pays arabe. Récemment, des missiles israéliens ont frappé l'aéroport international d'Alep à 2 reprises, causant des dégâts matériels et interrompant les services aériens. Damas a mis à maintes reprises en garde contre de tels actes d'agression. Il a également déposé de nombreuses plaintes officielles auprès de l'Organisation des Nations Unies, exigeant qu'il tienne Israël responsable des attaques et des violations. La Syrie avait également demandé à l'Organisation des Nations Unies et au Conseil de sécurité d'émettre une condamnation claire et explicite contre les agressions répétitives d'Israël sur son territoire. Dans sa dernière lettre adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et au président du Conseil de sécurité, le ministère syrien des Affaires étrangères a rappelé certains des récents crimes israéliens, notamment une attaque contre l'aéroport international de Damas en juin dernier. Il a déclaré que l'attaque avait entraîné la mise hors service complète de l'aéroport pendant 2 semaines. Pour Damas, les agressions israéliennes constituaient une menace directe pour la paix et la sécurité régionale et internationale. Damas dit qu'il se réserve le droit de répondre aux attaques. Les pays européens ont payé plus pour leurs factures alimentaires et énergétiques au cours de ces derniers mois que les mois précédents, principalement en raison des retombées économiques du conflit en Ukraine. En fait, les données officielles indiquent que l'inflation de la zone euro a atteint un nouveau record le mois dernier. Le Bureau des statistiques de l'Union européenne, Eurostat, a confirmé que le taux d'inflation annuel dans les 19 pays utilisant l'euro s'élevait à 9,1% au mois d'août. C'est une augmentation de 0,2% par rapport au mois de juillet. Le taux actuel est le plus élevé depuis la création de l'euro en 1999. La hausse des prix de l'alimentation et de l'énergie a exaspéré une crise du coût de la vie qui a touché les ménages et les entreprises dans toute la zone euro. La crise énergétique en Europe fait un effet de boule de neige alors que les pays du continent continuent de faire face à la hausse des coûts et aux pénuries d'approvisionnement avant la saison hivernale et alors même que la saison estivale n'est pas encore terminée. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait déposé cinq propositions sur la table. Il s'agissait de limiter les revenus des centrales électriques à faible émission de carbone, de plafonner le prix du gaz, d'imposer aux entreprises pétrolières et gazières une contribution de solidarité, d'aider les opérateurs aux prises avec la hausse des appels de marge et de flamber des prix à soutenir le choc financier et réduire la consommation d'électricité aux heures les plus chargées, à l'image de la réduction de la consommation de gaz décidée voici quelques semaines. Les présidents russes et chinois ont appelé à une refonte de l'ordre international lors du dernier sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, qui a également vu l'adhésion à part entière de la République islamique d'Iran à l'organisation signée par les membres. Vendredi, dans la ville ouzbèke de Samarcande, le président russe Vladimir Poutine a salué l'influence croissante en dehors du monde occidental. Nous offrons une assistance pour résoudre les problèmes énergétiques et alimentaires qui émergent dans le monde, résultant d'un certain nombre d'erreurs systémiques dans les principales économies mondiales, dans le domaine de la finance et de l'énergie, a déclaré le président russe Vladimir Poutine. Espérons que d'autres participants à la coopération économique fonderont également leur politique sur les mêmes principes et cesseront d'utiliser les outils du protectionnisme, des sanctions illégales et de l'égoïsme économique de manière opportuniste, a déclaré le président russe Vladimir Poutine. Le rôle croissant des nouveaux centres de pouvoir qui coopèrent entre eux devient de plus en plus clair, a ajouté le président russe Vladimir Poutine. Le sommet a marqué la première rencontre en face-à-face entre Vladimir Poutine et Xi Jinping depuis le début du conflit en Ukraine, ainsi que le premier voyage du dirigeant chinois à l'étranger depuis les premiers jours de la pandémie de coronavirus. Le président chinois a également exhorté les pays de la région a remodelé le système international et a abandonné les jeux à somme nulle et la politique des blocs. Il a noté que les dirigeants devraient travailler ensemble pour promouvoir le développement de l'ordre international dans une direction plus juste et rationnelle. L'Organisation de coopération de Shanghai, composée de la Chine, de l'Inde, du Pakistan, de la Russie et des anciennes nations soviétiques d'Asie centrale, du Kazakhstan, du Kirghizistan, du Tadjikistan et de l'Ouzbékistan, a été créée en 2001 en tant qu'organisation politique, économique et de sécurité pour rivaliser avec les institutions occidentales. À la fin du sommet, les États membres ont publié une déclaration indiquant qu'un mémorandum des engagements de l'Iran avait été signé en vue de l'adhésion du pays à l'Organisation de coopération de Shanghai en tant qu'État membre à part entière. La République islamique d'Iran et l'Organisation de coopération de Shanghai ont entamé un processus formel pour l'adhésion de Téhéran au bloc au mois de mars. L'adhésion de la République islamique d'Iran à l'organisation a ensuite été approuvée par le gouvernement iranien. Lors de son 21e sommet à Douchanbé, la capitale du Tadjikistan, en septembre 2021, l'Organisation de coopération de Shanghai a approuvé des documents pour l'adhésion à part entière de la République islamique d'Iran à cette organisation politique, économique et de sécurité eurasienne. Dans un tweet mercredi, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a annoncé qu'il avait signé un mémorandum d'engagement pour rejoindre l'Organisation de coopération de Shanghai. La déclaration a également noté que l'élargissement de l'Organisation de coopération de Shanghai contribuera à assurer la sécurité et la stabilité dans la région. Les États membres ont souligné l'idée que l'élargissement de l'Organisation de coopération de Shanghai et l'approfondissement de la coopération avec les États observateurs, les partenaires de dialogue de l'OCS et les associations internationales renforceront la politique de l'Organisation de coopération de Shanghai et contribueront à renforcer encore son rôle sur la scène internationale en tant qu'un organisme multilatéral pour résoudre les problèmes urgents de notre temps, assurer la sécurité, la stabilité et le développement durable dans la région, lit-on dans la déclaration. La déclaration a salué la décision d'accorder le statut de partenaire de dialogue de l'Organisation de coopération de Shanghai à Bahreïn, aux Maldives, au Koweït, aux Émirats arabes unis et au Myanmar, tout en annonçant que des documents accordent le même statut à l'Égypte, à l'Arabie saoudite et au Qatar, ont été signés. Les États membres, selon la déclaration, ont salué la signature de protocoles d'accord avec la Ligue des États arabes, l'UNESCO et la Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique, notant que les États membres continueront à rechercher des points de vue communs sur les questions de politique étrangère d'intérêt mutuel, y compris dans les organisations internationales et les forums internationaux.